L'heure de pointe, en partenariat avec le groupe La Dépêche, Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.
Quel plaisir de vous accueillir, Maryse Carrère, bonjour.
Bonjour, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'heure de pointe. Alors, bon, Gaëtan Rohr, malheureusement, a un petit problème de familial et de santé, donc on l'excuse pour, elle ne sera pas avec moi aujourd'hui pour animer ou co-animer cette émission L'heure de pointe, mais ça se fait bien sûr en partenariat avec le groupe La Dépêche, que je remercie pour leur participation depuis le mois de septembre. Maryse Carrère, vous êtes notre sénatrice et vous avez été réélue au premier tour, ainsi que Viviane Artigalas, votre collègue, aux dernières élections sénatoriales qui ont eu lieu au mois de...
Le 24 septembre.
Réélue au premier tour, c'est quand même quelque chose, une belle fierté.
Oui, c'est un honneur déjà, et une fierté aussi. Je l'ai pris aussi comme la reconnaissance du travail effectué pendant 6 ans. Alors j'avais déjà été élue au premier tour en 2017, lors de ma première élection. Mais là, c'est vrai que j'ai conforté le score, plus de 120 voix supplémentaires. C'est vraiment, oui, le lien aussi affectif qu'on a pu tisser avec Viviane, hein, parce qu'on a travaillé ensemble pendant 6 ans, le lien affectif qu'on a aussi tissé avec ce territoire et avec ses élus, puisque l'élection sénatoriale, c'est l'élection par les grands électeurs, dont en général les maires et des conseillers municipaux. Mais c'est voilà, ce lien que l'on a tissé en allant au cœur des territoires tout le temps, pendant 6 ans, en étant du nord au sud du département, de l'est à l'ouest, en essayant d'être présente pour pouvoir prendre le pouls du territoire et mieux défendre le département à Paris.
Mmh. Alors, vous avez, on peut dire quand même que vous avez le territoire chevillé au corps, Maryse Carrère. Vous avez été pendant un moment cadre de la fonction publique territoriale au conseil départemental, qui s'appelait à l'époque le conseiller général. Vous avez longtemps travaillé avec Michel Pélieu, le président actuel. Et ainsi que l'ancien président,
M. Fortassin,
avec qui vous avez, je pense, une grande amitié.
Oui, c'est lui qui m'a lancé sur la voie politique aussi. J'ai travaillé au service des élus radicaux de gauche du département pendant 11 ans, non, un peu plus, 20 ans. Et après, j'ai travaillé auprès de Michel Pélieu en 2011, lorsqu'il est devenu président du département. J'étais conseillère technique à son cabinet jusqu'en 2016. Et en 2016, je suis partie... à l'action sociale, à la réalisation du schéma de développement social pendant 1 an. Puis en 2017, je me suis lancée dans la voiture des sénatoriales.
Voilà, et qui a donné le succès, puisque vous avez dit que vous avez été élue au premier tour. Vous avez été quand même maire de la commune de Lobalagnas, pas très loin d'Argelès-Gazost, dans la vallée des Gaves. Vallée des Gaves qui vous a valu il y a quelques jours une émission de télévision nationale à Télématin où on vous avait parlé des crues qu'avait vécu en 2013 la Vallée des Gaves et ainsi que Lourdes.
Oui, j'ai eu le plaisir de passer sur Télématin pour illustrer aussi l'action des élus d'un territoire touché en 2013 par rapport à ce qui se passait dans le Pas-de-Calais.
Oui.
Même si ce n'était pas tout à fait comparable, puisque nous étions sur des inondations torrentielles en secteur de montagne, avec beaucoup de détérioration du lit du Gave, de maisons et de charriage de matériaux qui a défiguré une grosse partie de notre territoire. Ça faisait bizarre de se rappeler cet événement, parce qu'on a la mémoire qui est souvent un peu courte, même si ça reste quand même ancré dans notre histoire et dans notre passé. Mais ce que vivent aujourd'hui les gens du Pas-de-Calais, on l'a vécu ici en 2013. Et moi, j'étais maire de Lobalagnas, qui certes a été sûrement moins touchée que Barège, Gavarnie ou Cotteret ou Luce. Mais j'étais présidente du syndicat de rivière à l'époque, qui s'occupait de la rivière, surtout l'ancien canton d'Argelès. Et ça a été des moments très, très marquants aussi, et très instructif et très formateur.
Maire, je le disais, donc, de cette commune de Lobalagnas, qui est très dynamique. Vous avez une piscine qui fait rêver beaucoup de communes.
Beaucoup elle est intercommunale. Elle est sur Lobalagnas, mais c'est vrai qu'elle est intercommunale. C'est toutes les communes du canton qui la gèrent aujourd'hui.
Elle a un côté ludique l'été qui est très apprécié. C'est une réussite pour vous aussi?
Alors, c'est une réussite, oui. Ça a été très avant-gardiste, parce qu'elle a été créée en 71. Bon, j'étais pas très très
oui,
vieille
à l'époque.
C'était
oui, vous aviez pas beaucoup d'années, non ?
Voilà, elle a été créée vraiment par des précurseurs, par les élus de 5 communes, avec Pierre Fitte, Soulhomme, Lobalagnas, Saint-Savin et Adast. Et c'était vraiment dans le but d'apprendre à nager aux jeunes de notre canton. Et après, nous avons bien sûr, en 2013, eu la crue qui a ravagé, pour le coup, notre piscine. Et pour moi, ça a été aussi formateur de pouvoir, avec toute l'équipe du syndicat qui gérait à l'époque cet outil, de la reconstruire et de la améliorer comme on a pu l'améliorer pour en faire un outil touristique aussi intéressant et qui confirme son succès d'année en année.
Alors, vous êtes présenté à la mairie de Lobalagnas en 2001, réélu donc en 2014. Vous avez été obligé donc de laisser votre siège de maire en 2017 en raison des cumuls du mandat puisque vous deviez sénatrice. Vous êtes réélue en tant que sénatrice au premier tour. Le travail paye.
Oui, je pense, oui. Oui, le travail, l'engagement au service d'un territoire, l'écoute aussi, le dialogue, la recherche permanente de consensus aussi et de travail de concertation avec tous les élus d'un département. Moi, quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Je m'engage pleinement. Donc, je fais ça à 200%. Tous mes mandats, je les ai vécus à 200%. Et je pense que c'est ce qui m'a valu aussi d'être réélu à chaque fois.
Est-ce que lorsqu'on prend un mandat tel que le vôtre de sénatrice au niveau national, est-ce qu'on ne perd pas un peu cet ancrage local ?
Alors justement, moi je suis restée conseillère municipale de ma commune jusqu'en 2020, jusqu'au renouvellement municipal. Donc j'ai vécu le conseil municipal de l'intérieur en étant élue, en les accompagnant jusqu'en 2020. Puis après, j'ai souhaité retrouver un mandat local en me présentant aux élections départementales de 2021. Où je suis aujourd'hui conseillère départementale en binôme avec Louise Ouarmarie. C'est important d'avoir un ancrage local. On perd très vite pied si on n'est que sénateur et qu'on siège à Paris 3 jours par semaine et qu'on ne fait rien le reste du temps. Moi, ce n'est pas ma conception du mandat. J'ai souhaité voir la vie d'une collectivité de l'intérieur. Le Sénat, c'est le représentant des collectivités. Territorial. C'est constitutionnel. Voilà, nous représentons les collectivités, dont les communes, les départements, les régions, les intercommunalités. Aujourd'hui, si je suis conseillère départementale, c'est pour voir la vie et l'évolution d'une collectivité de l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est important aussi de porter la voix du département au niveau du Sénat. Lorsqu'on légifère, lorsqu'on a des projets de loi de finances, par exemple, qui commencent aujourd'hui à Paris, l'examen du budget de l'État, c'est important d'aller porter des amendements pour améliorer le quotidien de ces collectivités.
Quel est le lien là, est-ce que vous allez dans les dimanches, dans des vins d'honneur, dans des communes ? Qu'est-ce que vous demandez les maires ? Quel est le pouvoir d'un sénateur ? En quoi vous allez aider le maire ?
Alors déjà, il y a le pouvoir législatif. On sait aujourd'hui, on a peut-être, les citoyens ont peut-être l'image du travail législatif comme un travail un peu global, sociétal, sur des grandes lois comme le mariage pour tous, la procréation médicalement assistée, la loi immigration qu'on a votée il y a quelques semaines. Mais le travail législatif, c'est du travail concret. Ça touche le quotidien des gens. Et ça, c'est ce que les gens n'appréhendent pas. Et pour moi, le quotidien des gens, mais si on ne va pas le chercher, si on reste enfermé dans sa maison le week-end, on ne va pas voir le quotidien des gens. Et moi, ma présence dans toutes ces manifestations, dans ces inaugurations, c'est déjà aller voir le travail des élus qu'ils peuvent faire sur leur commune. Ça, c'est important. Et le travail dans le département des Hautes-Pyrénées est conséquent. Vraiment, je salue tous les maires qui font aujourd'hui un travail exceptionnel sur leur commune. C'est aussi aller rencontrer les gens, les citoyens, pour savoir comment ils vivent. Bon, quand on vote une loi sur les retraites, par exemple, c'était important aussi d'aller savoir comment les gens appréhendaient ce projet de loi, que je n'ai pas voté, mais parce que aussi j'ai senti que c'était pas, ça ne correspondait pas à l'envie des citoyens du département. Moi, je pense que si on n'est pas présent sur le terrain, il faut...
Vous êtes vraiment le porte-parole des citoyens. C'est quelque chose qui vous...
Alors, plus des collectivités, parce que les citoyens, c'est plus les députés, globalement, ouais. Mais on défend aussi les citoyens, une société de notre département, avec ses spécificités, avec ses traditions aussi, et ses choses particulières. On n'est pas sénatrice des Hautes-Pyrénées comme on peut être sénateur de Seine-Saint-Denis. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et ça, c'est important d'aller porter aussi cette différenciation au niveau du Sénat.
Vous êtes écouté, en fait, lorsqu'on vient d'un département rural, est-ce qu'on est écouté quand même?
Oui, au Sénat, oui. Parce qu'au Sénat, on a encore la chance, je dis la chance, d'être une majorité de sénateurs ruraux.
D'accord.
Contrairement à l'Assemblée où l'urbain est quand même plus présent. Donc ça, c'est important. Et la voix du Sénat, elle est souvent apparentée un peu à la voix de la ruralité aussi. Et on est assez écouté sur tout ce qui est expertise de notre ruralité et de nos territoires.
Vous êtes aujourd'hui la présidente du RDSE depuis donc le mois d'octobre. Vous en assurez donc la présidence depuis de votre réélection et qu'on a fallu reconstituer les groupes au niveau des sénateurs. Vous allez nous en dire deux mots du RDSE qui est très intéressante. Mais quand vous disiez que vous défendiez donc les élus locaux et ruraux, vous avez posé une question au gouvernement il n'y a pas très longtemps sur la FCTVA. C'est quoi la FCTVA ?
La FCTVA, c'est le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Les communes aujourd'hui, quand elles font des travaux, elles payent leur facture TTC.
Voilà, comme tout un chacun.
Sauf que quand ce sont des travaux d'investissement, la loi dit que l'État rembourse par le biais d'un fonds de compensation la part de TVA. Alors pas l'intégralité, mais la part de TVA sur ces travaux-là. Aujourd'hui, on se rend compte que le FCTVA, depuis quelques mois, est de moins en moins rendu aux communes sur leurs travaux et sur leurs investissements. Et c'est ce que j'ai essayé de débattre. On a un sujet sur le Pays de Lourdes et Vallée des Gaves qui a réalisé des investissements sur la rivière. Et on leur dit maintenant, mais non, vous ne récupérerez pas le fonds de compensation de la TVA sur une part de ces travaux parce qu'il y a une nouvelle nomenclature. Et c'est ce que j'ai essayé de porter au niveau de la ministre qui m'a répondu. C'est des sujets comme ça que j'aime porter, moi. C'est des sujets précis, des sujets...
Et concrets, parce que dans la vie d'une commune, lorsqu'on fait des travaux dans une commune, on est vite au million d'euros. Donc on imagine que 20% de million d'euros, ça fait de l'argent pour la commune.
Tout à fait. Mais pour le PLVG, c'est 120 000 euros qui manquent aujourd'hui à l'appel sur les travaux qu'ils ont réalisés en compensation de la TVA. Qui ne percevront pas ou qu'on va essayer de défendre. Mais voilà, c'est des choses concrètes, des choses qui améliorent le quotidien des collectivités et qui, derrière aussi, améliorent les finances des collectivités, dont les finances des contribuables à l'arrivée.
Et est-ce que, lorsque vous avez fait le tour pour l'élection, pour votre réélection des maires, est-ce qu'ils sont inquiets sur le financement des communes ?
Alors, le financement est peut-être le moins prégnant aujourd'hui comme préoccupation.
Aujourd'hui, qu'on appelle la DGF.
La DGF, elle a pas baissé depuis 5 ans. Les montants de DGF ont été maintenus pour les collectivités. Ils sont plus inquiets sur leur pouvoir d'agir. Alors, j'ai eu la chance de présider une mission au Sénat avant d'être réélu sur l'avenir de la commune et du maire. Et nous avons rendu un rapport avec mon collègue de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, qui était rapporteur. Un rapport qui s'appelle « Avis de tempête sur la démocratie locale, soignons le mal des maires ». Et nous allons cette semaine ouvrir le congrès des maires à Paris. C'est la préoccupation majeure aujourd'hui, c'est le pouvoir d'agir des maires. C'est les relations avec la population et qui sont de plus en plus difficiles. Vous avez entendu parler de toutes
violence,
ces agressions. Aujourd'hui, le maire est bousculé dans sa mission. Il est moins reconnu par la population. Population de plus en plus... agressive et dans des phénomènes de violence aussi. le besoin d'avoir tout de suite, ne pas forcément comprendre l'intérêt général et être plutôt sur l'intérêt particulier. Et ça, les maires aujourd'hui, ils souffrent de ça. On a eu des flots de démissions un peu inquiétants dans le département qui laissent poindre une crise de vocation des élus locaux à l'horizon 2026.
Voilà, il y a un exemple, par exemple, au Portugal, où la notion de commune n'existe plus et c'est plutôt porté par une intercommunalité avec des représentants quand même des villes-villages dans cette intercommunalité. Est-ce que demain, l'étage local, ça ne sera pas l'intercommunalité ou les agglos ?
Alors moi, je pense que, on l'a dit dans notre rapport, ouais. L'intercommunalité est un échelon plus qu'intéressant pour porter du projet. Voilà, il faut que l'intercommunalité redevienne vraiment une collectivité de projets et un échelon où l'on mutualise tout ce qu'on ne peut pas faire tout seul à l'échelle d'une commune. Malgré tout, les communes, elles ont leur sens. C'est pas aujourd'hui innocent si les citoyens aujourd'hui reconnaissent en premier le maire comme l'élu. Qu'ils reconnaissent le plus.
Et le souffre-douleur, souvent.
Voilà, c'est le premier à porter de baffe, comme dit le président du Sénat, parce que c'est la proximité. La commune, la mairie, ça reste souvent le dernier service public sur un petit territoire. Et ça, aujourd'hui, les gens, les populations ont besoin de proximité, de savoir à qui ils peuvent demander quelque chose, à qui ils peuvent, qui peuvent engueuler aussi, souvent, mais savoir que c'est une personne qui est là pour eux, pour les accompagner, pour les aider au quotidien, c'est important. Et je pense que la commune est un échelon qui doit perdurer. Alors, ça ne veut pas dire que on ne peut pas empêcher des fusions de communes. Il y a des...
Si demain, effectivement, les maires sont de moins en moins... Les gens ne veulent pas s'engager, tout simplement, ça va être compliqué, oui.
Ça va être compliqué. On a réfléchi là avec mon groupe et puis la délégation collectivité locale du Sénat sur le fait de porter des amendements pour accompagner les processus de communes nouvelles. Dans notre département, sur 469 communes, on a eu 6 créations de communes nouvelles. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas un processus qui a fonctionné beaucoup. Mais je pense que ça peut être aussi une bonne idée d'avoir, lorsqu'il n'y a plus d'élus qui veulent s'occuper d'une commune, d'avoir des fusions à des échelles cohérentes. Oui. Voilà. Et ça peut être aussi la porte de sortie pour préserver nos communes.
Alors, c'est vrai que les maires, effectivement... Quand on pense à l'État, la région, le département, l'intercommunalité, puis l'étage local, on leur a enlevé pas mal de choses. Petit à petit, il y a des compétences qui sont parties dans le département, qui sont parties dans la région, qui sont parties dans l'intercommunalité. Il leur reste des fois pas trop grand-chose. Effectivement, juste prendre les engueulades.
Oui, c'est ça. C'est lui qui est le premier, la porte d'entrée de beaucoup de services qu'il ne maîtrise plus. Aujourd'hui, les maires nous disent, en termes d'urbanisme, par exemple, c'est nous qui devons annoncer les mauvaises nouvelles, qu'un terrain n'est pas constructible, alors qu'on n'y peut rien. Voilà, on n'a pas la main dessus.
C'est l'étage maintenant ou l'étage à aglo.
Ou l'interco, voilà. Ouais. Donc, et ça, c'est pas toujours... Et puis c'est la loi, surtout. C'est la loi et les règlements qui fixent les règlements d'urbanisme. Mais... c'est eux qui sont en première ligne. Et ça, ils ont perdu ce pouvoir d'agir. Et puis aujourd'hui, la strate communale, elle est vraiment épuisée par les lourdeurs administratives, tout ce qu'on leur demande de faire et le peu de souplesse qu'ils ont en matière administrative. Moi, j'ai donné toujours un exemple pendant cette campagne où j'ai parcouru les 469 communes de notre département. Je disais, quand j'étais maire, en 2011, j'ai voulu refaire toute la place du village de notre commune. Et en 2 ans, tout était fait. Les plans, les projets, les études, les travaux. En 2 ans, tout a été bouclé. Quand je suis partie en 2017, on avait lancé la construction d'un atelier municipal, un atelier communal pour loger les employés communaux et le matériel. Je l'ai lancé en 2017. Ils l'ont inauguré, enfin, ils l'ont mis en service en 2021. Il a fallu 5 ans pour faire... un simple bâtiment de 160 mètres carrés.
Oui, voilà. Un hangar agricole, quelque
exactement.
Part.
Exactement. Et c'est très, très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a énormément de règlements, énormément de normes, l'inflation des normes. On en parle et les maires sont les premiers à les subir.
C'est compliqué donc, effectivement, ouais. De devenir élu local. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, la présidente du RDSE. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le RDSE au niveau du Sénat ?
Alors le RDSE, le Rassemblement démocratique et social européen, est un groupe d'élus, de sénateurs au Sénat. Alors vous savez que les sénateurs sont regroupés en groupe. Ils sont... Moi, j'ai la particularité d'être la présidente du plus ancien groupe du Sénat. Le D'accord. RDSE existe depuis quasiment la création du Sénat. Et c'est un groupe historique. C'est un groupe qui est très symbolique aussi, avec des valeurs fortes que nous partageons, l'ensemble des sénateurs de ce groupe. C'est un groupe qui se situe au centre de l'échiquier politique du Sénat, de l'hémicycle. Nous sommes des sénateurs de centre-gauche. Oui. Parti radical de gauche en particulier, et des sénateurs du centre droit, du Parti radical valoisien. Nous sommes 16 sénateurs, donc c'est un des plus petits groupes du Sénat aussi, et c'est un groupe où on se retrouve autour des valeurs fondamentales que sont aujourd'hui la République et la défense des valeurs de la République, la laïcité, le solidarisme et bien d'autres choses. Mais il y a une phrase que le président du Sénat dit, qui nous concerne, il dit « Le groupe RDSE ne dit jamais oui par dogmatisme ni non par discipline. » C'est ce qui nous caractérise, nous sommes constructifs. On n'est pas dogmatique en politique, on essaie d'améliorer la loi et de ne pas la prendre en disant « celle-là, elle ne me va pas, elle ne me convient pas, je vote contre systématiquement ». On est vraiment dans l'amélioration de la loi et dans la recherche systématiquement d'un compromis.
En prendre la présidence, c'était quelque chose d'important pour vous ?
Alors, je ne l'ai pas cherché forcément, mais c'était pour moi un grand honneur que mes collègues m'ont fait en me demandant de prendre la présidence de ce groupe.
Du travail sûrement du dernier mandat.
Ah oui, c'est un travail un peu différent, un peu plus de charge de travail au niveau du groupe à Paris, puisque c'est l'animation du groupe avec les 16 sénateurs. C'est l'organisation du travail de la semaine du groupe. C'est la participation aussi à la conférence des présidents, ce qu'on appelle la conférence des présidents, donc avec le président Larcher et mes 7 autres collègues des autres groupes, où nous organisons l'ordre du jour pour le Sénat. Et nous traitons de tous les sujets d'organisation du travail législatif. C'est du travail, mais c'est passionnant et c'est intéressant parce qu'on est dans le cœur du réacteur du Sénat et dans le sein des seins. Et vraiment, j'ai été très, très, très honorée de prendre cette présidence qui aussi me permet d'avoir des interlocuteurs dans les ministères, puisque nous organisons aussi beaucoup de rencontres avec les ministres quand il y a des sujets et des propositions, des projets de loi de nos ministres. Nous allons les rencontrer, nous allons discuter avec eux, et ça permet, j'ai l'impression que ça permet de faire plus avancer les choses en amont du vote de la loi et de pouvoir faire valoir aussi nos besoins.
Alors, je peux pas passer cette question que peut-être les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous regardent se posent. À quoi sert encore le Sénat aujourd'hui ? Est-ce que c'est une question qu'on vous pose ? Puisqu'on sait qu'une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, si c'est oui et qu'elle vient au Sénat et que c'est oui, bon, mais forcément, elle est votée. Si c'est non aux députés, elle vient chez vous. Si c'est oui, elle revient de nouveau aux députés et c'est les députés qui auront le dernier mot. Quel est vraiment le rôle aujourd'hui qu'a le Sénat et les sénateurs ?
Le rôle du Sénat, c'est un rôle d'apaisement et je dirais, un peu de façon triviale, de décantation de la loi. Quand la loi sort de l'Assemblée nationale, elle est des fois un peu brute de décoffrage, pas forcément affinée. Et d'avoir un double filtre sur un projet de loi ou une proposition de loi, c'est important. Et le Sénat fait ce travail aussi de filtrage et d'amélioration légistique de la loi pour ne pas faire n'importe quoi. Et ce travail, il est essentiel. Alors, c'est vrai que les gens ressentent peut-être l'impuissance du Sénat sur des grands textes de loi avec des grandes réformes voulues par le gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas une majorité, oui. Le gouvernement n'a pas une majorité très franche. Donc, il y a des possibilités de discussion entre les deux assemblées. Et je pense que... Les citoyens doivent vraiment voir le Sénat comme cette chambre d'apaisement, de décantation de la loi, d'amélioration de la loi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 70% des lois qui sont votées dans notre pays sont votées en accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les apports, la plus-value que le Sénat peut amener, sont retenus à l'Assemblée nationale dans nos projets de loi. Et ça, c'est essentiel.
On peut dire que vous êtes les sages de la politique.
Oui, c'est comme ça qu'on est un peu caractérisé, mais des fois, on n'est pas tout à fait sage. On peut avoir aussi des
débats animés.
Moins
qu'à l'Assemblée nationale en ce moment,
ça c'est sûr. Ils sont beaucoup moins virulents, ils sont toujours dans le respect.
Est-ce que, par exemple, lorsque effectivement le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des prises de bec.
Il a la majorité, mais elle est relative.
Oui, elle est relative. Et puis, il y a des prises de bec entre, on va dire, les deux grandes puissances, l'extrême gauche et l'extrême droite, et même les Républicains qui, souvent, ne savent pas trop où se positionner. Est-ce que là, le Sénat, il a tout son... Est-ce que vous trouvez que là, depuis le début de ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron et depuis les élections législatives, là, le Sénat a toute sa place.
Tout à fait. Ah oui, oui. Là, on a repris du poil de la bête, je dirais. C'est automatique, puisqu'il y a quand même une majorité sénatoriale LR au Sénat et un apport à l'Assemblée nationale pour avoir une majorité pour le gouvernement qui est du côté des LR. Donc, il y a des passerelles entre les deux et il y a de la discussion, ça c'est sûr. Il y en a plus que les cinq précédentes années où le Sénat, on nous disait, on circulait un peu, il n'y a rien à voir. Quoi, hein. C'était parfois, on ressentait un peu de dédain et un peu de mise de côté. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
C'est
aujourd'hui, la voix du président Larcher, même si je ne suis pas dans, je fais pas partie de la majorité sénatoriale, hein, oui. La voix du président Larcher, elle porte aujourd'hui.
On va continuer un peu à regarder un peu votre carrière qui est quand même assez étonnante. Hein. On l'a dit, vous étiez cadre dans la fonction publique territoriale. Vous avez appris un peu cette fonction territoriale de l'intérieur, hein, dans les mains de le cambouis, là, puisque vous y étiez cadre. Vous êtes passé, donc vous êtes élu maire. Vous avez aussi changé le nom, puisque ça existait sous différentes formes. Vous avez été quand même la présidente pendant quelques années du ce qu'on appelle le PLVG.
Oui. Oui, ça a été. C'est un syndicat à l'origine de communes, de toutes les communes de l'arrondissement d'Argelès, donc de AD jusqu'à Gavarnie. C'était un syndicat qui, à l'origine, avait été créé pour porter des politiques territoriales. Voilà, des contrats de région pour organiser localement un petit peu les financements des grands investissements. Et puis là, il s'est amélioré au fil du temps. Il est arrivé en 2014 à devenir un pôle d'équilibre territorial rural. Je vous passe les différentes, les différents acronymes législatifs. On est pour finir en 2017 en Pays de Lourdes et Vallée des Gaves, un syndicat de communautés de communes. Donc il est composé aujourd'hui de l'agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées et de la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Gaves. Donc ce sont les deux communautés qui sont membres de ce PLVG. Et surtout, en 2017, il a pris la compétence GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, sûrement grâce à 2013,
cru, oui, 2013.
Comme quoi d'un malheur, on peut en faire aussi de bonnes choses, où il nous a paru nécessaire de nous organiser à l'échelon du bassin versant du Gave de Pau, pour pouvoir traiter la rivière dans sa globalité et faire que tout ce qu'on peut faire à Gavarnie ou à Luce ou à Agos-Vidalos, ben, ça a forcément des répercussions sur la ville de Lourdes, par exemple, et d'avoir cette solidarité amont-aval sur l'organisation de la rivière et la prévention des inondations.
Si on regarde un petit peu, les gens qui nous écoutent peuvent penser que ce qu'on appelle le fameux millefeuille administratif où il y a 50 000 choses entre, on l'a dit, l'État, la région, le département, les maires, les syndicats, un qui va traiter les déchets, l'autre qui va traiter le milieu aquatique, c'est complexe. Et comment on s'y retrouve lorsque on est simple citoyen, qu'on ne s'intéresse pas forcément à la chose publique?
Mais on en revient à notre première...
on revient au début.
Première réaction, c'est le maire qui, malgré tout, reste la porte d'entrée. Voilà. Moi, je dirais, alors le millefeuille, on en parle beaucoup. Moi, je suis consciente qu'on a vraiment beaucoup de collectivités en France et peut-être qu'il y a une perte en ligne aujourd'hui d'efficacité. Mais quand on réfléchit, qu'on pose les choses sur la table et qu'on se dit laquelle on supprime, là, on ne sait pas.
Ah oui.
Parce qu'à un certain moment, on supprime qui ? La région, elle a toute sa légitimité à l'échelle d'un grand territoire sur l'organisation économique, sur des choses un peu plus macro. Le département au niveau des Hautes-Pyrénées, ben, on n'a pas forcément on ne peut pas remettre en cause sa légitimité et son action dans tout l'aspect social, tout l'aspect routier et tout ce qui est aujourd'hui accompagnement des collectivités, des communes. L'intercommunalité, elle a aussi sa place en termes d'aménagement de grands services comme les déchets, comme l'eau la Gemapi. Ouais. La mobilité, elle a cette vocation aussi. Et la commune, c'est l'échelon de proximité. Alors peut-être plus de fluidité entre les collectivités serait intéressant. Peut-être que on devrait aussi plus catégoriser les compétences par collectivité et que chacun soit à sa place et ne vienne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Ça, je pense qu'il y a un besoin de clarification là-dessus. Mais pour moi, le millefeuille, aujourd'hui, il a toute sa place. Et voilà, c'est l'histoire de notre pays aussi, la richesse de nos 36 000 communes. Je ne vois pas pourquoi, même si on avait 10 000 communes en France, pourquoi on serait moins riche, on serait moins bien, les populations seraient moins bien accompagnées. Non, je honnêtement, voilà, le millefeuille, c'est un sujet très complexe, parce que dès qu'on se pose la question de savoir lequel on supprime, c'est une autre affaire.
Là, la question est 4 heures, personne n'a 4 heures pour le faire et personne n'arrive à résoudre l'équation. Maryse Carrère, donc on le dit, vous êtes donc sénatrice et vous êtes exprimée il n'y a pas très longtemps sur malheureusement ce qu'on est en train de vivre sur cette guerre entre Israël et Palestine. Et vous êtes exprimée avec cette loi qui est en train d'être mise en place sur l'immigration et l'intégration.
Alors j'ai porté, oui, effectivement, c'est le privilège de la présidente du groupe.
On va vous voir souvent dans les médias, du coup.
Oui,
les questions au gouvernement.
Oui, c'est exactement. Je porte la voix de tout le groupe aussi à un certain moment. Donc c'est moi qu'on interpelle en premier. Puis c'est surtout sur des grands sujets, des grands débats au sein de l'hémicycle. J'ai l'honneur de porter la voix du groupe aussi. Et ça a été le cas pour le débat sur Israël avec la Première ministre, puisque ça a été un débat déclenché par la Première ministre au Sénat sur cette terrible, terrible guerre qui se produit actuellement où nous avons deux populations en otage. Nous avons une population israélienne qui aujourd'hui, avec un gouvernement qui est rentré dans une guerre dure et de vengeance. Et on ne peut pas les blâmer vu ce qu'ils ont vécu. Enfin, sur tout ce qui a pu se passer sur les kibbutz en bordure de la bande de Gaza, ça a été un massacre scandaleux et un vrai acte de barbarie. Et puis d'un autre côté, cette population palestinienne aujourd'hui qui est aussi otage du Hamas parce que ils subissent aussi ce qu'a pu faire le Hamas. Et ça, je ne sais pas aujourd'hui comment va tourner cette guerre, mais je suis très inquiète pour toutes ces populations et tout ce qu'on peut voir au quotidien dans nos journaux et qui sont relayés, et tout ce que peuvent subir aussi ces deux peuples.
Le Sénat a fait modifier le texte de loi qui venait de l'Assemblée nationale au départ et voulu par le ministre de l'Intérieur.
Alors ça, c'est le projet de loi immigration.
Oui.
Ça, c'est un projet de loi qui est arrivé il y a 15 jours au Sénat. Nous y avons passé une semaine entière avec des grandes nuits et des grandes journées. Alors c'était un projet de loi sur l'immigration et l'intégration. Mmh. Alors sur ce texte-là, le gouvernement avait proposé un texte qui venait améliorer aujourd'hui les conditions d'intégration des travailleurs immigrés. Et on sait, dans notre département y compris, combien il faut aujourd'hui qu'on assouplisse les règles pour pouvoir donner à des gens qui sont en situation irrégulière des permis de travailler, des titres de séjour, travail, surtout pour des métiers en tension. métier en tension à Lourdes, on sait bien ce que c'est, sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur aussi le bâtiment, les travaux publics, où on a peine, où les employeurs ont peine à trouver des salariés. Donc ça, cette partie du projet de loi me convenait. C'est ce fameux article 3 qui permettait de créer un titre de séjour, ce métier en tension. Pour moi, c'était une opportunité intéressante. Les Républicains du Sénat ont complètement modifié le texte. Mmh. Ils en ont fait quelque chose de très dur, notamment en supprimant... Ils ont pris l'opportunité de ce texte pour supprimer l'aide médicale d'État, qui est aujourd'hui dévolue aux salariés et aux gens qui sont en situation d'immigrés dans notre pays. C'est très difficile humainement d'imaginer qu'on va plus soigner certaines personnes.
Est-ce que ce projet est un peu là déjà dans les futures élections présidentielles? Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, donc la porte est ouverte. Et est-ce que là, les Républicains au Sénat ne vont pas essayer de se faire remarquer et peut-être essayer effectivement de faire la différence pour les prochaines élections présidentielles?
Je pense que c'est de la surenchère qu'ils font. C'est la course à l'échalote après le Front National,
oui,
c'est clair.
Tout à fait.
Et là, on a été vraiment dans la caricature de cette course à l'échalote. Et moi, je n'ai pas voté ce texte, je n'ai pas pu le voter. En plus, il ne va répondre à aucune question. Aujourd'hui, les questions, c'est les reconduites à la frontière, ce qu'on appelle les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Ces fameuses OQTF, elles ne sont pas exécutées. Elles sont exécutées, je crois, à hauteur de 17 ou 18%. Parce que les pays ne veulent pas donner les visas de retour de ces personnes dans leur pays.
Donc,
C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse sur notre territoire en situation irrégulière. Franchement, ce n'est pas la réponse. Ce texte ne répond pas à ça. Il ne répond pas du tout à ça. Il apporte de la dureté. L'AME, franchement, ça a été... terrible de voir qu'on pouvait supprimer cette aide médicale d'État. Ça veut dire qu'un jour, une personne qui est malade, un enfant qui est malade, va aller chez le médecin, mais le médecin, il va le soigner. C'est ce qu'il veut. Il va le soigner gratuitement parce que c'est dans ses gènes. Oui. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on va laisser des gens ne pas se soigner, avec bien sûr des risques sanitaires derrière, et puis de l'aggravation aussi, parce que cette AME, elle a été transformée en AMU quand même. Ils ont un peu atténué, les Républicains, le choc en disant on laisse une aide médicale d'urgence. Mais on va se retrouver avec ce qui est une simple bronchite qui peut être soignée avec
un antibiotique.
En réanimation 3 semaines après ou un mois après, avec des coûts pour l'hôpital qui sont plus importants.
Donc, pas forcément des économies d'échelle.
Non.
Maryse Carrère, le temps nous est compté. J'aimerais terminer par, on le dit un peu au début, lorsqu'on devient sénatrice, lorsqu'on prend un mandat national, des fois on ne sait pas trop ce que font les élus, les députés, ce qu'ils votent, ce qu'ils ne votent pas. Vous, quand même, vous avez une page Facebook où vous dites tout ce que vous faites.
Oui.
C'était important pour vous de...
Je ne peux pas tout dire parce que j'en remplirai sinon Facebook toutes les minutes. Mais j'essaie de mettre l'essentiel. Et ce qui peut aussi
intéresser les gens.
Voilà.
Et vous dites ce que vous faites parce que vous les représentez quelque part.
Oui, tout à fait.
Les grands électeurs, c'est vrai, mais vous représentez quand même
aussi
la population.
Les citoyens. Et après, à direction des grands électeurs, j'ai des notes qui partent souvent de mon bureau pour, à destination des maires, des courriers d'information, par le biais de la presse aussi, c'est toujours intéressant de pouvoir s'exprimer. Mais la page Facebook, oui, c'est un outil qui est assez regardé encore, malgré tout, qui est un outil, un réseau social quand même, où l'on peut aussi contrôler. Et ça, c'est important de pouvoir aussi... laisser s'exprimer les gens, mais être dans une démarche plutôt constructive. Voilà.
On parlait tout à l'heure de colère au maire. Est-ce que lorsque vous allez dans des manifestations, vous êtes invité, est-ce que les gens viennent aussi donner un peu leur colère par rapport à l'inflation?
Oui, c'est un sujet... Même si dans notre département, on a l'impression qu'on est peut-être un peu plus épargné, les gens en parlent peut-être moins, ils sont dans leur quotidien. Oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je pense que l'État a fait des efforts. Bien entendu, on a voté, on a relayé les efforts de l'État, que ce soit pendant le Covid, avec toutes les aides qu'il y a pu y avoir. Mais et aujourd'hui encore, avec les filets de sécurité qui ont pris fin. Mais je pense que la préoccupation, c'est surtout pour les plus fragiles. Je pense qu'il faut qu'on arrive à, aujourd'hui, revaloriser les salaires. Voilà, parce que je pense que l'inflation, les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Mmh. Je pense que si on ne passe pas par une revalorisation des salaires, notre société va s'enfermer dans une violence encore plus importante.
Mmh. Est-ce que c'est possible, ça? Ça dépendra de beaucoup de choses, parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, malheureusement, augmenter les salaires.
Oui, tout à fait.
D'autres, oui, le pourraient, mais d'autres, non. Hein, c'est un peu compliqué. Oui. C'est un vaste sujet. J'espère, Maryse Carrère, que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur d'autres émissions, parce que c'est toujours passionnant de suivre une sénatrice qui a des mandats, qui nous représente du côté du Sénat. Merci pour votre disponibilité.
Merci
parce que lorsqu'on vous connaît un petit peu et qu'on vous rencontre dans les différents endroits, eh bien vous êtes toujours disponible avec le sourire et vous ne toisez les gens ni quoi que ce soit. C'est peut-être ça aussi le fait que vous soyez réélu. Car je me souviens quand je vous ai rencontré au mois de juin, vous me disiez comment allait se passer la campagne. Vous me disiez très bien, je fais tous les maires. Et on se dit, bon, mais vu votre réputation, on disait toujours, bon, ça n'a pas l'air de faire trop. Ah oui, non, une élection, elle n'est jamais gagnée.
C'est ça, exactement. Il faut, et puis surtout, il faut respecter les électeurs. Et je pense que d'aller les voir chacun dans leur mairie, pour moi, c'était très, très important et essentiel aussi pour échanger avec eux et prendre aussi le pouls du territoire, même si je les ai vus souvent. Mais c'était un temps privilégié. D'une heure dans chaque commune, de voir aussi les réalisations de chacun. C'était pour moi indispensable.
Merci beaucoup, Maryse Carrère, d'être venue jusqu'à nous, à nos studios, pour faire cette heure de pointe avec un partenariat, donc avec le groupe La Dépêche, que nous remercions, bien sûr, sans Gaëtan Rohr cette fois-ci, mais qui sera là la semaine prochaine, enfin la prochaine émission. Je n'en doute pas. Merci à vous.
Merci.
Très bon vent à vous. Et puis, je sais que vous êtes très occupé et je vous remercie d'avoir accepté d'être venu à cette émission.
Avec grand plaisir.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
L'heure de pointe, en partenariat avec le groupe La Dépêche. Gaëtan Rohr, Philippe Subercase.